Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Edeni autour des outils de l'intelligence collective au sein de la transition écologique et sociale. Chaque mois, notre organisme de formation, notre collectif Edeni, comme l'Eden ici, aborde un sujet d'intérêt général pour pouvoir vous éclairer, vous donner un petit peu plus de clés d'esprit critique et aborder des choses sous un angle de témoignages, mais aussi d'expertise de personnes qui ont beaucoup lu sur ce sujet. Cet épisode sera un épisode un petit peu particulier parce que, pour une fois, nous n'aurons pas d'invité, mais nous allons plutôt vous offrir une petite capsule de formation autour des outils de l'intelligence collective à l'occasion de la refonte de notre formation majeure, qui est la formation en approche ESE, écologie, santé, éthique, qui non seulement est certifiante pour travailler dans les métiers de la transition écologique et sociale et rajouter de la RSE, mais aussi accompagner d'autres collectifs et d'autres organisations pour le faire, mais aussi désormais qui comporte une certification de facilitation d'intelligence, d'atelier en intelligence collective. On a rajouté tout ça parce qu'on s'aperçoit que c'est des outils qui sont absolument nécessaires pour créer des projets qui ont du sens, parce que soi-même, on n'a pas forcément toutes les clés de lecture et d'action. Il y a forcément des choses qu'on oublie, il y a forcément notre ego qui peut rentrer en compte. Donc, c'est toujours important de pouvoir s'entourer d'un collectif et d'avoir d'autres manières de penser aussi et de voir des choses qu'on aurait peut-être oubliées. Alors, on va partir pour ce podcast des plus grandes expériences sociales en matière d'intelligence collective. On va se poser la question de savoir si le jugement de la foule est toujours fiable, de comment on peut influencer l'opinion collective, quels sont les mécanismes de cette intelligence collective. Et on se pose tous et toutes ces questions pour tenter d'apporter des réponses aux crises que nous traversons. Mais avec quels outils et dans quels objectifs? C'est aussi la question de cet enregistrement autour des technologies dites démocratiques. Et on va voir ce que ça veut dire, technologie dure ou démocratique, antidémocratique. Autant de sujets souvent ignorés des débats écologiques et pourtant si primordiaux. On parle très souvent du PFH, c'est-à-dire le putain de facteur humain qui peut être transformé en précieux facteur humain, mais on parle un peu moins de ces mécaniques de l'intelligence collective. Alors, pour commencer, on va voir une petite expérience dont vous avez peut-être déjà entendu parler autour de l'intelligence collective, et on va voir aussi ses limites. Il y a quelques années, déjà, étaient menées des expériences qui essayaient de chercher à savoir si l'opinion de la foule était éclairée ou pas. Et donc, pour ce faire, par exemple, on réunissait 10 000 personnes et on leur demandait d'évaluer la quantité de billes dans un bocal. Voilà, ils avaient un bocal, peu importe leur vue, tout le monde était situé à peu près à même distance. Et ils devaient estimer donc le nombre de billes et l'écart, si vous voulez, type, allait de... Il y en avait qui disaient 300 billes dans le bocal, d'autres 1800, 3000, d'autres 50, etc. Et la bonne réponse était de 800 billes très exactement dans le bocal, et la moyenne de la foule était de 803. Et là, on peut se dire finalement, moi-même, j'en sais rien, mais si on se met tous ensemble, eh ben, on a plus de chances de pouvoir toucher cette vérité. Tout comme dans nos projets écologiques, bah, peut-être qu'on est un peu paumé et on n'a pas la solution à certains arbitrages individuellement, mais peut-être que collectivement, si tous ensemble on s'y met et on réfléchit, on se rapprochera un petit peu plus d'une solution viable ou d'une vérité, etc. Alors ça, c'est à pondérer, parce que la foule peut aussi avoir tort, tous ensemble. Et il y a un biais qui est très très fort, c'est savoir est-ce qu'il y a eu un biais d'influence ou pas. Parce que lorsque quelqu'un influence, eh bien, tout le monde peut se retrouver à suivre cette personne, mais ça dépend quelle est cette personne. Est-ce qu'elle a un agenda politique derrière la tête? Est-ce qu'elle a un degré d'influence qui est positif ou négatif, etc. Et puis ensuite, on a la concertation. Et ça, c'est un outil beaucoup plus intéressant parce que si on vous demande combien il y a de billes dans le bocal, vous n'en savez rien, vous dites, bah, je sais pas, j'ai un peu une mauvaise estimation en général des ordres de grandeur, mais je vais dire 300. Et que vous en parlez avec quelqu'un d'autre qui vous sort un argument rationnel. C'est-à-dire, bah non, mais ce bocal, ça a l'air d'être un bocal assez classique qui doit faire 30 centimètres de haut par tant de large. Du coup, à peu près, je dirais qu'un maximum de billes qui puissent rentrer serait plutôt aux alentours de, allez, 600, 800. Bah là, ça va peut-être faire évoluer votre pensée et vous allez vous rapprocher au fur et à mesure que les gens parlent, eh bien, des personnes qui vont avoir l'air le plus sensé et avoir le plus d'arguments rationnels vont peut-être réussir à convaincre d'autres personnes. C'est pas toujours automatique, mais en tout cas, ça peut fortement nous aider. Et ça, c'est ce qu'on appelle bah, l'intelligence collective. C'est de miser comme un effet Pygmalion. C'est un vrai effet étudié en sociologie qui fait que vous faites le pari, non pas le pari de Dieu, n'est-ce pas, comme Pascal, mais au contraire, vous faites le pari de l'humain, le pari que votre interlocuteur et votre interlocutrice sont suffisamment sages, intelligentes pour comprendre ce que vous dites. Et donc, vous n'avez pas essayé d'enrober la vérité ou de la transformer pour qu'elle passe mieux. Et ça, c'est vraiment une notion fondamentale que nous, on étudie beaucoup et qu'on œuvre, qu'on participe à diffuser chez Denis. C'est vraiment toujours avoir beaucoup de respect en nos interlocuteurs, interlocutrices, parce que s'ils sont venus vers nous, s'ils nous écoutent, c'est quand même qu'il y a un fond de volonté d'amélioration, de participer à cette écologie nécessaire, radicale. Et donc, forcément, on a ce qu'on appelle un principe de charité, d'ouverture, que tout le monde a son déterminisme social, son expérience de vie, respectable, à respecter. Personne n'a la vérité absolue. Peu importe le nombre d'ouvrages que vous aurez lus sur le sujet, le nombre de convictions ancrées fortement, la vérité est un idéal asymptotique. On peut essayer de s'en rapprocher au fur et à mesure, mais on ne la maîtrisera jamais totalement. Et quand on a acquis cette humilité et cette confiance dans cet effet Pygmalion d'honorer quelque part l'intelligence de son interlocuteur afin d'avoir une argumentation rationnelle, et bah, c'est très rassurant. Et c'est comme ça qu'on peut parler de tous les sujets, d'écologie radicale, de résistance, de sabotage, de transactivisme, énormément de sujets de PMA, de GPA, de la montée du fascisme terrible en France, des choses qui sont très clivantes et dures, mais vraiment quand on a ce principe de charité et cette confiance dans l'intelligence d'autrui, ça aide beaucoup. Ensuite, le but, c'est pas juste d'avoir confiance dans notre interlocuteur et notre interlocutrice, mais c'est surtout de mettre en place des choses pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Lorsque c'est la volonté du groupe, évidemment, on ne le fait pas avec justement l'extrême droite ou avec des personnes qu'on n'a pas spécifiquement envie d'entendre et dont on connaît déjà l'idéologie. Ça, c'est important, hein. C'est comme la communication non violente. On a fait un podcast là-dessus avec des spécialistes qui nous ont bien enseigné la différence entre si on a envie de faire le lien ou pas. Et donc, quand vous avez envie de faire ce lien, eh bien, on peut suivre certains outils assez pertinents de l'intelligence collective en adoptant d'abord une posture de facilitateur, facilitatrice. Il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va faciliter les échanges, l'engagement du groupe de travail, avoir une vision d'ensemble sur une situation souvent complexe, qui va pouvoir accompagner des formats et des pratiques pédagogiques qu'il connaît, qu'il maîtrise, parce que c'est toujours bien quand c'est pas chaotique et que voilà, il y a quelqu'un qui aide à fluidifier l'innovation et la créativité et surtout les échanges entre chacun. Et pour ça, bah, il y a quatre grandes compétences, on va dire, émotionnelles. La première, c'est l'écoute. Veiller à ce que chaque participante soit entendue et laisser chacune s'exprimer. Ça, c'est vraiment la première. L'écoute, c'est très important. La deuxième, c'est l'empathie, de comprendre les émotions des participants et comment ceux-ci s'inscrivent dans le groupe. La troisième, c'est l'acceptation, ne pas chercher à induire des idées et des comportements chez les participants. Si vous pensez que vous pouvez apprendre quelque chose du groupe, bah, n'essayez pas à tout prix de les convaincre de votre idée que vous avez déjà. Et la quatrième, c'est l'absence de jugement, ne pas porter de jugement ni sur les participantes, ni sur leurs idées. Pour être dans l'empathie, on a besoin de connaître les émotions. Donc, c'est aussi des compétences presque de CNV, hein, quand on apprend à reconnaître les émotions, pas seulement colère, joie, tristesse, peur, sérénité, mais toute la panelle de diversité qui les entoure, et de pouvoir les utiliser à bon escient, de disposer des bons gestes. Donc, par exemple, je vous invite à aller voir les formidables infographies qu'ont fait la coopérative Fertile, qui s'appelle les gestes de la coop, donc de la coopération, et qui donne énormément d'outils qu'on peut utiliser lors d'ateliers d'intelligence collective, mais même lors d'un débat en famille, hein, pourquoi pas. Il y en a forcément que vous connaissez déjà, par exemple le fait de ne pas applaudir en tapant dans les mains, mais de montrer son approbation en bougeant ses mains de chaque côté là de sa tête, un petit peu comme des éventails. Ensuite, on a la croix au-dessus de la tête pour exprimer vraiment une forte désapprobation, un mécontentement, une volonté d'interrompre. On peut avoir aussi la vague de silence en levant le bras, et dès que quelqu'un voit ce bras levé, eh bien, se tait et lève le bras pour qu'il y ait une sorte de vague et que très rapidement on puisse retrouver un focus. On peut faire un C pour demander une clarification, un L, un élément de langage, avec ses mains toujours. On peut aussi inviter les personnes à se reconcentrer, à être plus focus, ou bien à accélérer un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de gestes qui peuvent être assez intéressants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces gestes ont été aussi transférés à la version numérique. Pour demander la parole, souvent, on utilise l'étoile. Une clarification, je n'ai pas compris, bah, c'est toujours le C. Poser une question, juste le point d'interrogation, un point technique, un T, un problème, un bug, le double slash, etc., etc. Donc, c'est important de pouvoir connaître les outils du design thinking aussi, qui placent l'humain au cœur du projet, c'est-à-dire que vous avez envie, sur une après-midi ou beaucoup plus de temps de travail, de mettre en place des outils de design thinking pour arriver à une solution. Il y a plusieurs étapes. La première, comme on l'a dit dans les quatre grandes compétences du facilitateur en intelligence collective, il y a l'empathie, le fait de pouvoir comprendre où en est son interlocuteur dans son expérience de vie, dans son émotion, de pouvoir accueillir tout le monde là-dessus. Ensuite, il y a de pouvoir bien définir la problématique, les enjeux qu'on veut traiter. On va faire de l'idéation, c'est-à-dire qu'on va proposer des premières sous-étapes pour répondre à une problématique. Et puis, on va les retester avec des prototypes et des tests. Et surtout, faire de la mesure d'impact. Parce que le but, hein, vous l'avez compris chez Denis, c'est pas de devenir capitaliste et de faire des super projets. C'est d'être efficace et de participer à cette guérison du monde ou à une amélioration ou à votre projet professionnel de sens, etc. Donc, si vous ne mesurez pas l'impact réel que vous avez peut-être flatté votre ego en réussissant un projet, mais sans savoir si ce projet a vraiment du sens. C'est toujours important d'être capable aussi de le mesurer. Ensuite, vous avez d'autres outils qui peuvent être tout aussi intéressants autour de l'intelligence collective, c'est les 7 P. Alors, les 7 P, c'est un petit moyen mnémotechnique, un peu comme les 5 R du zéro déchet, on va dire. Ça vous aide à ne pas oublier de choses importantes dans la préparation de votre atelier en intelligence collective. Le premier P, alors c'est en anglais, pardon, hein, mais c'est comme ça qu'a été pensé les 7 P. Le premier P, c'est le P de purpose. Le purpose, c'est l'objectif. Donc, vraiment de les définir, de dire bah, pourquoi on se réunit, en fait. Et c'est là-bas, ça paraît évident, mais c'est important aussi de donner des objectifs à des personnes que vous allez réunir, qui vont investir du temps, qui vont vouloir partager un moment pour résoudre une problématique ou tout simplement pour brainstormer, pour réfléchir à comment on pourrait améliorer, par exemple, la vie du collectif, de cet habitat partagé, etc. Ensuite, c'est le P de people, le deuxième P. Qui va participer? Quel rôle ces personnes vont-elles jouer? C'est important. Tout le monde n'a pas forcément le même rôle dans un atelier en intelligence collective. Il y en a qui vont apporter une expertise sur un domaine donné, par exemple un médecin ou un réparateur, un artisan qui va apporter sa connaissance. Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans l'humain ou dans l'inclusion ou apporter quelque part un challenge sur une notion dont ils sont au fait. Ensuite, le troisième P, ça va être le product. Le produit, qu'est-ce qui est attendu en sortie? Ça, c'est très important, ça rejoint l'objectif. C'est pas juste pourquoi on se réunit aujourd'hui, mais c'est au final, à la fin, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend un agenda des activités dans la semaine, une répartition? Est-ce qu'on attend un premier prototype? Voilà, vraiment d'être au clair sur le produit qu'on attend pour éviter le fouillis et que ce soit juste des discussions. Ensuite, le process. Donc, le process, bah, c'est compte tenu des trois premiers éléments, comment on va organiser notre atelier d'intelligence collective. Quel outil on va prendre? Parce que vous le verrez juste après. Dans l'atelier en intelligence collective, on a plein d'outils différents. On peut faire un World Café, on peut faire un forum ouvert, on peut faire un trip, on peut faire des débats mouvants, on peut faire un Crazy Eight. Enfin, il y a plein d'outils différents qui existent pour animer, pour faire venir ce jus de cerveau, hein, qui va permettre l'intelligence collective. Donc, qu'allons-nous devoir mettre en œuvre pour répondre aux objectifs compte tenu des participants et du résultat attendu, hein? On récapitule les trois premiers P, Purpose, People, Product, Process. Ensuite, préparation. Avons-nous besoin d'un travail de préparation préalable de la part des participants? Practical Concerns, le sixième P. Donc, quels sont les éléments logistiques dont nous avons besoin? Le matériel, salle, horaire, convivialité. Et enfin, le dernier P, c'est ce qu'on appelle les pitfalls, c'est-à-dire les risques, ce qui pourrait foirer quelque part. Comment on va gérer, comment on peut anticiper les éventuels risques lors de cet atelier. Alors, un atelier en intelligence collective, il faut aussi absolument prévoir des temps tampons. On n'est pas là pour reproduire l'oppression d'une ligne de production à la Ford, on va dire, mais on est là pour pouvoir échanger, mettre en commun nos connaissances, nos envies, nos besoins, nos compétences, etc. Donc voilà, laissons parler l'humain aussi, prévoyons des temps de reconnexion, des temps tampons aussi pour pouvoir ajuster le timing, des remises en énergie pour maintenir ou renforcer la dynamique du groupe grâce à des petits energizers ou des exercices qui font bouger le corps aussi, c'est important quand vous organiserez un atelier en intelligence collective. Indiquez bien aux participants le temps imparti et surtout à ce que vous leur demandez de co-construire, voilà, de pouvoir qu'ils aient un peu une idée où se projeter et ce qu'on attend d'eux plutôt que ça pop avec plein de petites idées ou au contraire des choses très réfléchies, des grandes phrases, voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser, comme je vous en ai parlé, des energizers. Il y en a plein chez Edeni, que ce soit en conférence, en entreprise ou pendant les cours. On en utilise énormément, qu'ils soient corporels, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient ludiques. Donc ça, je vous laisse imaginer et aller voir tout ce que vous pourriez trouver dans ces petites remises en énergie, on va dire. Vous pouvez aussi prévoir différents rôles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider en tant que facilitatrice ou facilitateur en étant gardien ou gardienne du temps ou en étant secrétaire et en notant, en gardant l'engagement, en vérifiant l'émotion de chacun. Enfin voilà, il peut y avoir plein de rôles différents, même s'il n'y a en général qu'un ou qu'une facilitatrice. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est vrai que ça demande une bonne coordination et de bien se connaître quand même. Mais dans tous les cas, que vous soyez un ou plusieurs, il y a trois moments clés au démarrage d'un atelier. Le numéro un, c'est la présentation des intentions. Toujours, c'est très important de recontextualiser où on est. Le numéro deux, c'est l'inclusion. Donc, de pouvoir faire ce qu'on appelle un icebreaker, de rapporter un petit peu de joie, d'envie, de motivation et que tout le monde se connaisse. Et le numéro 3, c'est les règles de fonctionnement du groupe. En anarchie, on dit souvent que l'anarchie, c'est pas le désordre, c'est l'ordre, mais sans domination. Eh bien, dans un atelier en intelligence collective, c'est un peu ce qu'on recherche. C'est-à-dire, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de choses juste pour poser, créer des règles pour des règles. C'est plutôt des règles de fond qui permettent en fait un bon fonctionnement. C'est un cadre et on a tous et toutes besoin d'un cadre, de connaître nos limites, de connaître ce qu'on peut faire, ce qui est attendu pour que ça puisse bien fonctionner. Donc on fait des icebreakers comme ça peut être un jeu de cartes. Moi, j'aime bien que les gens choisissent une carte et nous disent que ça les inspire parce que ça fait travailler la créativité, l'émotion. Il y a beaucoup d'icebreakers autour de la définition. Comment on se définit soi-même? C'est beau aussi de pouvoir voir les créativités et les manières de se définir de chacun et chacune. Et dans les règles de fonctionnement, en général, on parle de une, écouter avec attention, deux, parler avec intention dans un objectif, pas juste faire du blabla. Trois, d'être bienveillant sans être trop complaisant, enfin sans être complaisant du tout même. Ensuite, de se faire confiance les uns les autres, je vous en parlais en intro, hein, l'effet Pygmalion. Et enfin, de respecter le cadre. Ça, c'est important de dire, bah voilà, il y a un cadre, par exemple, vous avez la loi des deux pieds. Si vous sentez que vous ne contribuez pas à l'atelier ou que vous n'en retirez rien, bah vous avez deux pieds. Surtout, sentez-vous libre de les utiliser pour partir. Donc, une fois que vous avez exposé les bonnes règles de fonctionnement, les bons gestes, de garder les intentions en évidence et d'afficher les rôles de chacun, bah c'est parti. Donc là, vous avez plein de techniques d'animation. Je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Il y a aussi le métaplan. Vous avez le temps de réflexion individuelle et personnelle. Vous avez des forums ouverts. Vous avez les chapeaux de Bono où on prend par exemple un chapeau de la neutralité et on va s'exprimer de manière très neutre. Ou au contraire, le chapeau du pessimisme et on va voir tous les problèmes et les risques qu'il pourrait y avoir. Le chapeau de l'optimisme, le chapeau de l'organisation, des émotions, de la créativité. C'est quelque chose qui est très agréable de faire. Mais vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de techniques d'animation. Par exemple, le Word Café, je ne sais pas si vous le connaissez. Le Word Café vous permet eh bien, de pouvoir avoir des enjeux. Donc, par exemple, sur une première table, on discute des problématiques. Sur une deuxième table, on discute des solutions possibles. Et sur une troisième table, on va discuter des plans d'organisation, enfin voilà, de comment on pourrait mettre en œuvre très concrètement les solutions aux problèmes qui ont été définis. Et en fait, on commence sur une table, peu importe la table, et ensuite on va tourner à chaque nouveau round ou à chaque nouvelle séquence, on va dire, eh bien, vous changez de table et vous allez pouvoir ainsi eh bien, répondre au fur et à mesure à des problématiques qui ont été définies par une autre table, par un autre groupe. Donc c'est assez sympa, ça permet d'économiser le temps et surtout d'avoir à chaque fois des nouveaux cerveaux qui prennent le train en route de ce qui a été déjà dit avant et qui vont rajouter une couche de contenu. Et une fois que vous avez suffisamment de contenu dans votre atelier, voilà, vous avez fait plein de techniques d'animation différentes suivant le temps dont vous disposiez. Et bien surtout, n'oubliez pas de faire une phase de clôture. Ça, c'est très important. Et parfois, c'est un peu bâclé et c'est dommage parce que ça laisse un goût amer ou au contraire, on n'a pas l'impact ou le produit final espéré parce qu'on n'a pas cette double phase de clôture. Alors, double, pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté la clôture du contenu. Donc, on va rappeler ce qui s'est passé pendant les ateliers, les prochaines étapes. Et de l'autre, il y a la clôture du groupe. Un rituel collectif qui permet de faire remonter l'énergie et puis de fermer la parenthèse qu'on a ouverte en début d'atelier. Donc, ce clôture, pareil, il y a plein d'outils possibles et imaginables qu'on étudie pendant la formation SE. Je ne peux pas tous vous les donner vraiment. Enfin, vous en trouverez sur Internet énormément. Vous en avez certainement déjà vécu aussi, vous, dans tous les ateliers ou les groupes que vous avez connu. Mais en tout cas, ce sont des outils qui sont vraiment extrêmement riches et quand on fait confiance à ces techniques d'animation, on peut eh bien, se laisser totalement surprendre par les objectifs qu'on atteint, puisque à un cerveau, alors oui, c'est sûr, ça va plus vite, mais comme le dit le dicton, on va beaucoup moins loin. Et ce qui est important de réaliser, c'est que ça permet en utilisant l'intelligence collective, d'acquérir cette humilité et ce recul de se dire, si une solution est bonne pour un tout petit groupe pour quelqu'un, peut-être qu'elle n'est pas bonne pour tout le monde. Et là, je reboucle sur une notion qu'on avait quelque peu touchée du doigt dans l'introduction, qui était les technologies démocratiques, ou les technologies soft, ou les technologies douces, comme disait Ivan Illich. Il y a plusieurs manières de les définir, les technologies conviviales, etc. Et puis, à l'inverse, il y a les technologies dures, autoritaires, non démocratiques, etc. Alors, la différence, c'est est-ce que cette technologie, que moi, je renommerais plutôt, on le renomme ainsi dans la formation EDENI, plutôt une technique, est-ce que cette technique, en fait, elle peut être faite sans avoir un État autoritaire, une division du travail, une exploitation des terres et des gens, ou est-ce qu'elle peut être faite en autonomie, quelque part, donc de manière démocratique, où les gens s'approprient eux-mêmes leurs connaissances. Il y a beaucoup de low-tech qui vont être totalement démocratiques, c'est-à-dire que voilà, il y a de la récup de certains produits, et après, en 8 heures de formation maximum, on est capable de maîtriser la construction d'une technique. Au contraire, une technologie, alors déjà une technologie, ça sous-tend quand même un progrès technologique, une complexité qui ne peut pas être résolue par une seule personne. Mais en plus, quand on parle de technologie dure, de technologie autoritaire, on parle de toutes ces technologies qui contiennent en leur sein la nécessité d'une division du travail, d'une mondialisation, d'un État autoritaire, parce que forcément, il y a d'un côté des mines qui vont être exploitées, dont on va sortir du métal, de l'autre côté, eh bien, plein de lignes de production un peu partout dans le monde où chacun va faire une petite étape parce que ce serait impossible de le faire tout au même endroit. Par exemple, la construction d'un Airbus. Un Airbus, il ne pourra jamais être démocratique, il a besoin d'avoir des États forts, d'avoir presque des dictatures, d'avoir des gens qui vont être exploités pour pouvoir après obtenir tous les matériaux et surtout des gens qui vont se tuer à la tâche dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont pas forcément, enfin ça se mange pas, c'est pas nécessaire, ils vont pas forcément s'en servir non plus, ils vont pas voir non plus tout le processus de construction. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une technologie dur quelque part, non démocratique, dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Par exemple, on peut se poser la question du livre. Est-ce que le livre, l'industrie du livre, pour fabriquer un livre, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est autoritaire ou autonome? La question se pose vraiment. Si vraiment c'est votre livre dont vous avez fabriqué les feuilles de papier quelque part, ou un tout petit artisan proche de chez vous, et puis vous imprimez à la mano avec vos planches votre livre, effectivement, c'est assez autonome, c'est assez dur. Encore que, faut voir qu'est-ce que vous utilisez comme machine et ce que ça renferme comme terme derrière. Je vous invite à aller lire la méga machine de PMO. Pièces et main-d'œuvre, le collectif grenoblois qui étudie ces notions de progrès technologique, de civilisation et d'écologie radicale. Et donc, pour revenir sur cette réflexion qu'initie PMO autour de la méga-machine et de tout ce que ça engendre et nécessite, on peut se poser la question, est-ce qu'une imprimante, même des premières imprimantes de Gutenberg, est-ce que déjà on n'était pas dans une technologie dure? Mais c'est une parenthèse assez grande, mais quelque part, on n'a jamais totalement quitté notre sujet de l'intelligence collective, parce que si on veut que l'intelligence collective fonctionne et qu'on y croit vraiment, il faut qu'elle soit juste, et qu'elle soit démocratique, qu'elle soit partagée par tout le monde, et que ce ne soit pas une énième exploitation où on exploite des bonnes volontés qui viennent pour nous aider sur un sujet sans qu'on les rémunère, sans qu'ils aient vraiment leur mot à dire, sans qu'on écoute peut-être, comme ça arrive dans certains partis politiques où on organise des débats, mais au final, rien ne sera pris en compte à la fin. On pense notamment à la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est important de pouvoir avoir ces notions-là aussi en tête quand on veut organiser en toute bonne foi un atelier en intelligence collective. Alors maintenant, je vais prendre quelques questions. J'ai déjà entendu parler de déclusion plutôt de conclusion, mais je ne sais pas quelle est la différence. Est-ce que c'est la clôture dont tu parles? Exactement, Gabriel. On parle souvent de déclusion. Alors, je ne saurais pas dire, c'est une bonne question, je ne saurais pas dire d'où vient la nuance sémantique entre la conclusion et la déclusion. Est-ce que c'est juste pour faire un peu la différence? La conclusion, c'est vraiment un terme qu'on utilise à tort et à travers partout et que l'intelligence collective avait envie d'avoir son propre mot. Qui évoque plus l'humain et cette clôture en deux parties, la clôture de contenu et la clôture du groupe, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je me demande ce qu'en dit le dictionnaire. Si vous voulez fact-checker, enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais allez vérifier en direct live, c'est possible. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'intelligence collective? Ah, je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a pas mal de ressources que vous retrouvez en ligne, mais rien ne vaut la mise en pratique. Et je peux vous dire que même sur notre formation ESE, où on a 4 jours de mise en pratique à fond, où c'est du matin au soir, on fait vraiment beaucoup de mise en pratique, même ça, parfois, ça suffit pas. Et puis, c'est pas forcément en temps réel. Enfin, on fait des mises en pratique sur beaucoup de sujets et pas que sur l'animation de l'intelligence collective, mais effectivement, ça demande de beaucoup s'entraîner, et notamment pour la partie dont je vous parlais des pitfalls. C'est-à-dire que c'est très important, c'est une vraie responsabilité, non pas de prendre en charge une responsabilité psychologique, parce que ce n'est pas du tout le rôle d'un facilitateur ou d'une facilitatrice. En revanche, un rôle d'animation bienveillante, ça oui, et donc on a une responsabilité de comment on réagit s'il y a un gros relou qui arrive et qui fait une réflexion sexiste, comment on réagit s'il y a un climato-dénialiste qui bloque tous les débats et qui sort voilà, une bombe et qui met de la mauvaise foi et de la mauvaise ambiance, comment on réagit s'il y a quelqu'un qui panique. Comment on réagit s'il y a quelqu'un qui, non pas lead, parce que c'est très bien d'avoir des leaders, mais qui domine et qui fait un peu le chef, qui monopolise la parole. Aussi, au contraire, on aimerait la participation de tout le monde et il y en a qui participent pas. Alors ça, il y a des outils d'animation qui permettent d'avoir plus ou moins une participation homogène, mais c'est des choses à anticiper, vraiment de manière consciente, on va dire. Inclusion, déclusion, je regarde en temps réel là, sur cette notion, ça a attiré ma curiosité de savoir pourquoi ce point sémantique, et c'est vrai que je me suis jamais eu le, la... ça m'est pas passé par l'esprit, enfin oui, effectivement, j'ai toujours entendu parler de déclusion, ouais, fiche de réunion, déclusion, la déclusion, tac, 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 animer un atelier. Bon, voilà. Après, bon, il y a d'autres définitions de la déclusion sur le monde extérieur, mais ça, c'est une autre définition. Mais voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Oui, c'est le. Gabriel nous dit, j'ai l'impression en effet que c'est le mot choisi par l'intelligence collective. En effet, ouais. Bah, écoutez, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'intelligence collective, que ça vous a donné envie de participer à un atelier en intelligence collective et ou d'en animer un. Vraiment une super expérience. Vous pouvez faire des jeux en intelligence collective aussi. Il n'y a pas que des ateliers avec un objectif très précis. Enfin, quoique même un jeu, il y a un objectif, hein. L'objectif, c'est de s'amuser, de passer un bon moment, de permettre de mieux connaître ses amis, etc. Enfin, vous pouvez trouver plein d'objectifs à ça. Le produit, ça va être bah, que justement, il n'y ait pas eu de compétition, que ça se soit bien passé, qu'on ait réussi à arriver à la résolution de ce jeu, par exemple. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser ces compétences dans beaucoup de domaines. Les gestes aussi de la coopération, on peut les utiliser dans beaucoup de domaines. Là, on nous dit gérer les mauvais perdants. Oui, c'est vrai, ça peut faire partie des pitfalls. Voilà, on pourrait faire les 7 P sur sur les jeux collectifs. On peut transformer aussi les jeux compétitifs qui existent déjà en jeux collectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire aussi chez Denis. Et puis, encore une fois, voilà, sachez aussi faire cette différence entre les connaissances de la foule, les influences que vous pouvez avoir sur cette foule, que la foule n'a pas toujours raison, mais que la moyenne des vérités de la foule peut se rapprocher plus de la vérité que si vous prenez uniquement les extrêmes. Il y a aussi une loi des grands nombres. Enfin, il y a énormément de sujets qu'on pourrait traiter, mais c'est pas le but de ce podcast. On pourra en refaire d'autres. N'hésitez pas à nous communiquer d'ailleurs sur la newsletter Edeni ou sur nos réseaux sociaux tous les sujets autres et divers que vous aimeriez qu'on traite. En tout cas, pour cette petite aperçu de l'intelligence collective, des outils et de ce qu'elle peut permettre, eh bien, on va terminer ici aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne exploration des collectifs autour de vous. Et puis, on se revoit d'ici un mois pour le prochain podcast. Merci à toutes et à tous.